C'est lorsqu'on creuse qu'on se rend compte que tous les détails qui sont mentionnés sont voulus. Il y a une très grande profondeur. Donc, elle est loin d'être superficielle, elle est immensément profonde. Puis toute une vie à étudier la Bible ne suffit pas à en découvrir toutes les richesses. La Bible, c'est l'outil que Dieu a placé entre nos mains pour qu'on apprenne à le connaître, lui, qui est le Dieu infini. Mais il se révèle vraiment à travers sa parole. Donc, c'est normal de comprendre qu'on n'en vient jamais à bout de découvrir toutes les richesses dans la Bible. C'est comme une indication des qualités de Dieu qui sont infinies. Elle contient d'innombrables trésors qui dévoilent la grandeur des qualités de Dieu. Comme dit Paul dans Romains, « Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. » Ben, dans le sens qu'on ne peut pas les comprendre totalement. On ne peut pas mettre Dieu dans une boîte et dire « Bon, j'ai fini de lire la Bible, maintenant je le comprends. » Avez-vous découvert quelque chose dans les Écritures cette semaine en lisant? Il y a beaucoup de choses qu'on a entendu parler, puis lorsqu'on le lit soi-même, c'est comme si on le découvre. Ah, c'était vrai, ça. C'est vraiment dans la Bible. En ce qui nous concerne, la qualité principale que Dieu présente de lui-même, c'est son amour. C'est un Dieu bon, fidèle, bienveillant, miséricordieux. Mais tout ça, c'est l'amour. Dieu est amour. Puis c'est ce qu'il nous dévoile. Puis ça, on n'en vient jamais à bout de comprendre tout l'amour de Dieu. Mais c'était une prière de Paul dans Éphésiens. Vous vous souvenez, il dit « Que le Christ habite dans vos cœurs par la foi, que vous soyez enracinés, fondés dans l'amour. » Pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur de cet amour, comme un amour en quatre dimensions, et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Cette connaissance-là est tellement profonde qu'elle est, elle est même inaccessible pour quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit. La semaine passée, certains l'ont mentionné là, dans les commentaires. Et lorsqu'on n'a pas le Saint-Esprit, on ne peut pas comprendre. On peut arriver à comprendre certains textes, des faits historiques, là, mais comprendre la profondeur du texte, là, comprendre que c'est Dieu qui nous parle, ça prend le Saint-Esprit en nous. On voit ça dans 1 Corinthiens 2. « Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes sait ce qui concerne l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? » C'est par l'Esprit de l'homme qu'on peut comprendre l'homme. « De même, personne ne connaît ce qui concerne Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. » Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin de savoir ce que Dieu nous a donné par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, en expliquant les réalités spirituelles à des hommes spirituels. Et l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Ça, c'est clair? Donc, le Saint-Esprit nous donne la connaissance, mais il faut le voir comme une progression. On ne reçoit pas toute la connaissance de Dieu d'un coup. C'est une progression dans la vie. Un jour, on va pouvoir, là. Parce qu'on va avoir un corps glorifié, là, on va comprendre. Ça va nous répondre à beaucoup de questions. Paul, il disait qu'on présentement, on voit comme au travers d'un voile. C'est brouillé. Ouais, ben Paul, c'est un qui... dans le Nouveau Testament, c'est celui qui en savait le plus, là. Puis ce qu'il voulait, lui, c'est s'en aller. Il voulait s'en aller auprès de Dieu. C'est normal. Jésus l'avait annoncé, quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, vous conduira dans toute la vérité. Donc, ce n'est pas qu'il vous donne toute la vérité d'un coup, mais il vous conduit à la vérité. On l'acquiert progressivement. Il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. On peut apprendre à connaître Dieu aussi dans ses commandements. Comme Roger dit qu'il lit le Lévitique, il y a plusieurs qualités de Dieu qu'on peut voir lorsqu'on lit Lévitique. Mais dans toute la Bible, on voit la volonté de Dieu qui est montrée dans ses commandements. Il dévoile sa personne. Comme dans le psaume 119, il dit « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. » Ou « Fais-moi comprendre la voie de tes statuts et je méditerai sur tes merveilles. Tu es bon et bienfaisant, enseigne-moi tes prescriptions. » Donc l'auteur du psaume 119 pouvait voir la bonté et la bienfaisance de Dieu dans ses prescriptions. Dans tout ce que Dieu fait, même dans ses jugements qui sont très sévères, on peut découvrir les qualités, les perfections de Dieu. Puis dans notre époque, dans l'époque du Nouveau Testament, comment Dieu dévoile ses qualités ou sa personne. Puis dans l'Église, on voit Dieu se révèle dans le sens que l'Église, c'est le corps de Christ. Comme il dit, il nous a parlé par la bouche des prophètes dans l'Ancien Testament, maintenant il nous parle par Jésus, par le Fils. Toute la sagesse de Dieu se dévoile en Jésus-Christ. L'accomplissement de ses promesses, c'est en Jésus. La manière qu'il nous parle, la manière que Dieu dévoile sa volonté, qui décrit exactement qui il est, c'est en Jésus. Plus on apprend à connaître Jésus, plus on apprend à connaître les perfections de Dieu. Comme Paul dit dans Colossiens, pour connaître le mystère de Dieu, Christ, en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Donc, suivant l'exemple de Jésus, si on s'aime, les gens vont découvrir l'amour de Dieu. Donc, on manifeste la caractéristique de Dieu qui est l'amour. Puis, ce qui va bien sous le thème de la profondeur, là, c'est les psaumes. C'est un des livres qu'on va survoler aujourd'hui parce qu'ils ont été écrits dans le but de provoquer chez le lecteur une méditation. Souvent, les phrases sont courtes. Là, tu te dis, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Même si vous, quand on étudie l'hébreu, là, il y a beaucoup de petits mots, des conjonctions, des articles qui sont sautés. C'est que tout est raccourci. C'est vraiment un style d'écriture concis, là, qui peut paraître flou parfois, mais c'est voulu. C'est pour provoquer une réflexion chez le lecteur, une méditation. Donc, les psaumes, c'est des poèmes à la louange de Dieu. À l'origine, c'était écrit pour être chanté. C'est comme des cantiques. Ils ont été écrits par plusieurs auteurs. Le principal, vous le connaissez, c'est David. Le roi David, il en a écrit 73 sur 150. Mais il y en a beaucoup qui ont été écrits par Asaph, qui était responsable des chants sous le règne de David. Donc, la grosse majorité ont été écrits à l'époque de David. Moïse en a écrit. Il y en a un qui est même dans Exode, qui est écrit. Les fils de Corée, c'est des descendants de la tribu des Lévites. Donc, Corée, c'était un des Lévites. Puis c'est lui et ses fils ont été chargés des chants pour le culte. Et leurs descendants, dans leurs descendants, il y en a qui ont été chargés d'écrire des chants. Moïse en a écrit, Salomon aussi. Si on vient sur la chronologie, on a vu la Genèse, ça coupe de la création jusqu'à Abraham, Isaac, Jacob, Joseph. Ensuite, le peuple d'Israël a été 400 ans en Égypte, probablement pendant ce temps-là que Job a été écrit. Ils sont sortis à l'époque de Moïse, ils ont tourné 40 ans dans le désert. C'est là qu'ils ont reçu la loi, qui est dans Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Ensuite, est venu Josué, le successeur de Moïse, puis ils sont entrés dans la terre promise. Puis là, ça a commencé l'époque des juges, qu'on a vu la semaine passée. C'est dans l'époque des juges que Ruth a été écrit. Puis l'époque des juges est terminée avec le dernier juge, qui est Samuel. Et après Samuel, le peuple faisait pas confiance à ses fils, puis ils ont voulu nommer un roi. Puis le premier roi qui a été désigné, c'est Saül. Ça, on voit cette histoire-là dans 1 Samuel. Puis 2 Samuel fait la suite, nous présente la venue du roi, selon le cœur de Dieu, David. Ça, c'est l'époque des rois, qui dure, elle aussi, à peu près 400 ans. Il y a beaucoup de chiffres qui reviennent, là. Ils ont été 400 ans en Égypte. L'époque des juges, on pense que ça a duré à peu près 400 ans aussi. L'époque des rois, 400 ans aussi, jusqu'à la destruction du pays. Et c'est à l'époque de David que la plupart des psaumes ont été écrits. Comme on disait, les psaumes sont du style poétique, mais c'est de la poésie hébraïque, là, la poésie juive. C'est différent de ce qu'on s'attendrait aujourd'hui, là. Comme un poème en français va avoir quoi comme particularité? Puis les vers, ils vont avoir quoi comme particularité? Oui, c'est dans le but d'être chanté. Le titre des psaumes est vraiment difficile à traduire. Louis II, il a un peu deviné, là, mais il n'y a personne qui a trouvé de quoi de mieux. Une fois de temps en temps, après des gros paragraphes, des fois c'est marqué « pause », le mot « c'est là ». Là aussi, on suppose que c'est une pause, là, mais...
Il faudrait des chants, là.
Oui, des fois c'est instrumental, là, mais la... Ouais, mais la plupart... Ben, c'est peut-être un bout d'instrumental, c'est vrai, là. Non, c'est ça. La poésie française, là, c'est elle va accorder une importance aux rimes. Parfois, le nombre de syllabes aussi dans une phrase. Là, tu veux que chaque vers ait tant de pieds. Là. Mais en hébreu, c'est moins important, ça. Ce qui va accorder l'importance, principalement, c'est sur les parallèles. Les parallélismes d'idées. Par exemple, tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Ça veut dire tu sais tout ce que je fais. Là. Quand je m'assieds, quand je me lève, c'est une expression pour dire en tout temps, tu sais. Et tu comprends de loin ma pensée. Donc, tu sais qu'est-ce que j'ai en tête. Là. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Encore une expression pour dire en tout temps. Tu pénètres de loin toutes mes voies. Tu lis dans ma tête. Donc, c'est comme deux fois dire la même chose. Bien, il y a deux idées dans la première phrase et deux autres idées dans la deuxième phrase, mais les deux concordent. Parfois, il y a des parallélismes avec 3, 4. Des fois, c'est tout imbriqué. Des fois, c'est des contraires aussi. Donc, une phrase qui veut dire quelque chose, la phrase suivante dit la même idée, mais à l'opposé, le contraire. Par exemple, les idoles sont des faux dieux, mais toi, Éternel, tu es le vrai Dieu. C'est pour dire le contraire. Mais ça, ça c'est de la poésie. Hein. Pour les Hébreux, là, quand il y a des parallélismes. Puis des fois, c'est sur la prononciation aussi, la séquence des mots. Quand on les lit, ça sonne, c'est sur les sons que ça va. Il va y avoir comme des répétitions, un peu comme des jeux de mots. Ça, on le perd avec la traduction, malheureusement. Les psaumes peuvent être classés en plusieurs catégories, même s'ils sont tous destinés à provoquer la réflexion, la méditation, à être chantés. Ils ne traitent pas des mêmes thèmes. Un premier thème, c'est la supplication. C'est la plus grande catégorie. C'est un tiers des psaumes. Ça montre que l'homme est porté à se tourner vers Dieu lorsqu'il est dans le pétrin. C'est le plus souvent, lorsqu'on est dans le trouble, qu'on va se tourner vers Dieu. Puis les psaumes reflètent ça. Par exemple, le psaume 5, « Prête l'oreille à mes paroles éternelles, comprends mon gémissement. Sois attentif à mon cri d'appel, mon roi et mon Dieu. C'est à toi que j'adresse ma prière. » Il y a aussi des psaumes de reconnaissance, où on remercie, on apprécie. Comme le psaume 30, il dit « Je t'exalte, Éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas laissé mes ennemis se réjouir à mon sujet. Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. » On a aussi des psaumes qui manifestent la confiance. Ça peut être mélangé aussi. Il peut y avoir plusieurs thèmes dans un psaume, là. Mais il y a certains psaumes que l'idée principale, c'est que l'auteur dit qu'il a confiance en Dieu. Puis c'est une louange à Dieu avec laquelle il est dépendant. Comme le psaume 27, « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le refuge de ma vie. De qui aurais-je peur? » Ça a peut-être pour but aussi de donner la confiance à ceux qui le lisent, là, d'encourager. Il y a des psaumes qui sont carrément des psaumes de louange, où on décrit Dieu, toutes ses qualités, puis les œuvres qu'il a faites aussi, ce qu'il accomplit. Ça, il y en a plusieurs. Comme le psaume 100, « Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis, avec la louange, célébrez-le, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon, sa bienveillance dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. » On sait pour louer les qualités de Dieu, ce qu'il est. Il y a aussi des psaumes d'instruction. Ça, c'est une bonne indication aussi des chants qu'on devrait chanter dans le culte, là, qui devraient être variés pour toucher plusieurs objectifs. Il y a certains psaumes qui sont là vraiment pour enseigner, donner une sagesse. Puis c'est presque des proverbes. Comme, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assit pas sur le banc des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite sa loi jour et nuit. C'est un enseignement, ça. Plusieurs psaumes aussi vont nous enseigner en revenant sur des événements de l'Ancien Testament. Qu'est-ce que le peuple d'Israël a vécu? Donc, c'est comme des commentaires sur l'histoire. Dans le psaume 105, « C'est lui, l'Éternel, notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Il se souvient à toujours de son alliance, de sa parole pour 1000 générations, de l'alliance qu'il a conclue avec Abraham, de son serment à Isaac. » Là, ici, il continue en décrivant ce qui est arrivé à Joseph, puis comment que le peuple d'Israël a été en Égypte, comment ils sont sortis, pour rappeler ce que Dieu a fait. Il y a aussi des psaumes d'humiliation, qui sont la plupart du temps au « je ». C'est une personne qui s'adresse à Dieu. Comme le psaume 32, « Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas couvert ma faute, et j'ai dit, je confesserai mes transgressions à l'Éternel. Et toi, tu as enlevé la faute de mon péché. » Un autre aspect des psaumes, la dernière catégorie qu'on voit ici, c'est les psaumes qu'on appelle des psaumes royaux ou qui traitent de la royauté. Ils sont des psaumes prophétiques. Il faut les voir comme ça. Donc, ça célèbre la royauté de Dieu, comme on va louer Dieu parce qu'il est le roi de l'univers. Ou parfois, on va célébrer la royauté du roi, comme à l'époque de David, c'était David. Et comment Dieu l'a placé, comme si David est le représentant de Dieu en exerçant la royauté sur la terre. Il est appelé son Messie, le loin de l'Éternel. Pas loin, mais le loin de l'Éternel. Comme le psaume 2 dit, « Je publierai le décret de l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils. C'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage et pour possession les extrémités de la terre. Servez l'Éternel avec crainte. Soyez dans l'allégresse en tremblant. Embrassez le Fils de peur qu'il ne se mette en colère et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se réfugient en lui. » On peut faire le parallèle direct avec Jésus. C'est vraiment un psaume qui est prophétique sur la venue du Messie. Mais là, il est en train de décrire David, le roi, selon le cœur de Dieu, qui est appelé comme le fils de Dieu, parce qu'il exerce la royauté de manière juste, puis que les ennemis qui ne veulent pas le reconnaître comme roi, ben, ils ont à trembler. Donc, les psaumes nous révèlent plusieurs choses. Premièrement, ils nous révèlent que la Bible, c'est pas juste une série de lois qu'on doit suivre. C'est pas juste un guide de quoi faire et quoi ne pas faire. Ça nous montre que Dieu veut plus que nous dicter sa volonté. Il veut une relation avec nous. Les psaumes sont le livre de la Bible qui nous montre le plus la relation qu'on peut avoir avec Dieu, une relation personnelle, et une relation collective aussi en assemblée avec notre Dieu. Donc, il y a une relation qui est possible entre l'homme et Dieu. Les psaumes nous révèlent le Dieu créateur. Il y a plusieurs psaumes là, qui parlent de du fait qu'il a créé l'univers, qu'il nous a créés, nous, comme une créature merveilleuse, qu'il est souverain, un Dieu bon et fidèle, un Dieu juste, qui est à craindre, mais en même temps qui est miséricordieux, qui est toujours prêt à pardonner. Est-ce qu'il y a d'autres aspects qui vous viennent en tête? Il y a une question qu'on peut se poser aussi parfois, c'est que puis on retrouve des fois des paroles des psaumes dans nos chants, mais les psaumes ont été écrits dans le contexte de l'Ancienne Alliance. Dans le contexte de l'Ancienne Alliance, la révélation de Dieu était adressée au peuple d'Israël. Puis l'offre du pardon s'était adressée au peuple d'Israël. Mais n'importe qui sur la planète pouvait devenir israélite, pouvait adopter l'Éternel comme Dieu, être pardonné, mais c'était adressé au peuple d'Israël. Mais clairement, il y a plusieurs indices qui montrent dans les psaumes que c'était destiné à être utilisé plus tard, là, et même dans le contexte de la Nouvelle Alliance. D'ailleurs, les auteurs du Nouveau Testament les citent souvent. Mais pour ça, il faut transposer certains concepts. Donc, par exemple, si le psaume parle du peuple d'Israël, lorsqu'il dit « Israël, louez l'Éternel », comment on devrait transposer ça aujourd'hui? C'est quoi Israël? C'est nous autres. C'est l'Église. Comment on devrait transposer l'expression « la maison de Dieu » ou « la maison de l'Éternel » ou « le temple » Oui, « la famille » Là? Oui, « l'Église locale » ou « le... » Oui. L'assemblée des chrétiens, parce que nous sommes le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Donc, les expressions qui disent qu'on désire aller dans la maison de Dieu, c'est qu'on désire être parmi les chrétiens. On désire la communion fraternelle. Ouais.
Mais il y a des psaumes aussi qui s'adressent vraiment, quand il dit « peuple, louez l'Éternel, tous les peuples de la terre ».
Ah oui, ça reste toujours vrai, là. Mais c'est un indice, justement, ça, que c'est pour montrer que les psaumes n'étaient pas destinés seulement au peuple d'Israël. Là. Éventuellement, c'était pour tous les peuples.
Il faut faire attention avec aussi, quand on fait le parallèle avec la maison de l'Éternel, la sainteté du temple de l'Éternel, sous la Nouvelle Alliance, dans certaines églises évangéliques, c'est transposé que ce bâtiment ici, le sanctuaire ici, là, ce sont des mots qui sont employés comme si c'était le bâtiment qui était saint, que la salle est sainte ici, tandis que la sainteté du temple de l'Éternel, aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, c'est nous-mêmes. C'est nous, le temple de l'Éternel. C'est pas les briques ici, c'est juste un outil qu'on utilise. Contrairement à l'Ancienne Alliance, où vraiment il y avait un lieu saint, un lieu très saint, c'est très... Faut faire attention.
C'est vrai. L'effet pervers de penser qu'il y a quelque chose de sain dans la bâtisse, c'est qu'on peut se permettre de se relâcher lorsqu'on n'est pas ici. Là, on arrive à l'église, là, on adopte un autre comportement, mais c'est pas vrai. En tout temps, on est le temple du Saint-Esprit. Là. On ne devrait pas avoir deux comportements.
On appelle le bâtiment l'église, ce qui est faux. Ouais. Je vais à l'église. En réalité, je vais
au bâtiment de l'église.
Ouais. Je vais où se réunit l'église.
C'est ça.
Parce que l'église, c'est...
Oui, c'est important à comprendre ça. Lorsque les psaumes célèbrent la loi de Dieu, à quel point la loi de Dieu, elle est bonne, elle est parfaite, elle est juste, elle restaure l'âme, elle nous fait grandir. Mais ça, on peut tout transposer la loi à l'enseignement de Jésus, à sa parole, à Jésus lui-même. Donc, à chaque fois que dans les psaumes, on voit qu'il parle de la loi ou des préceptes de l'Éternel, les commandements qui sont bons, on peut transposer ça, on peut remplacer les mots là, par Jésus, les enseignements de Jésus, la manière qu'il nous conduit. Même, vous ferez l'exercice, le psaume 119, là, à chaque fois que c'est écrit la parole, vous pouvez remplacer ça par Jésus. Et c'est impressionnant, là, c'est comme une révélation de l'œuvre de Jésus. C'est un long exercice parce que le psaume 119, il est long. Là. Ça, c'est un autre aspect intéressant de la poésie hébraïque. Dans le psaume 119, chaque paragraphe utilise une lettre de l'alphabet, en commençant par le Aleph, le Bet, Gimel, Dalet. Les lettres, chaque phrase, chaque vers, commence par cette lettre-là. Le paragraphe suivant commence par la deuxième lettre de l'alphabet hébreu.
C'est intéressant aussi dans le Nouveau Testament, et même le Nouveau Testament encourage, il dit, entretenez-vous par des psaumes, par des cantiques. Il utilise Jésus même avant de mourir, là, il a chanté des psaumes là, avec les disciples.
C'est pas juste accessoire ou optionnel, c'est vraiment important. Là.
il y a des modèles à suivre aussi. La repentance de David dans le psaume 51 est intéressante à étudier. Il reconnaît son péché, et il reconnaît qu'il a péché non contre Bathsheba, quoi qu'il le reconnaît aussi, non contre Uri, mais il reconnaît que toutes les actions qu'il a faites, il reconnaît son péché contre Dieu lui-même. Donc, il y a des choses très intéressantes à étudier.
Oui, c'est vrai. La plupart du temps, c'est du point de vue humain, là, fait qu'on peut s'identifier avec l'auteur, là. Et à chaque fois qu'il est question du roi, de la royauté, bien, c'est évidemment Jésus, le roi des rois. Donc ça, les psaumes ont été écrits à l'époque des livres de 1 Samuel et 2 Samuel, là, à l'époque du roi David. Et ce qui suit tout de suite 1 et 2 Samuel, c'est 1 et 2 rois. Ce sont des livres historiques, vraiment dans le même style que Samuel, là. Donc certains pensent que ça pourrait être la même personne qui les a rassemblés, qui les a peut-être édités. L'auteur, il est anonyme, là, on ne sait pas c'est qui, mais ce qui est clair, c'est qu'il a eu accès aux archives royales. Probablement que c'était à la période de l'exil, donc c'était après que le royaume d'Israël avait été détruit et que les survivants avaient été amenés en captivité lorsqu'ils étaient à Babylone. Probablement que c'était à cette époque-là que la personne a rassemblé les textes qui avaient été écrits pour former le livre de 1 et 2 rois. Mais on n'a pas d'indication claire. Mais ça couvre une période d'à peu près 400 ans. Les psaumes prophétiques vont parler de la venue du Messie. Ils sont repris souvent par les prophètes, s'ils vont utiliser des extraits de psaumes dans leur prophétie.
Ils sont repris dans le Nouveau Testament.
Oui, ils sont repris dans le Nouveau Testament pour indiquer que les prophéties sont accomplies. Oui, juste les psaumes, c'est très riche. Puis il y a beaucoup de psaumes qui sont comme des commentaires de l'Ancien Testament. Là. Des fois, on cherche à comprendre un passage de l'Ancien Testament. Un bon réflexe, c'est d'aller voir s'il y a un psaume qui en parle. Les psaumes vont nous aider à comprendre. C'est le premier bon commentaire. Dans 1 et 2 rois, il y a plusieurs sections. Premièrement, c'est la fin du règne de David. Donc, on le voit alors qu'il est très avancé en âge, là, il est prêt de mourir. Puis là, il y a tout encore des péripéties pour voir qui va être son successeur. Mais Dieu permet que ce soit Salomon. Donc, les chapitres 1 à 11, ça traite vraiment du règne de Salomon. Après le règne de Salomon, le royaume a été divisé, malheureusement. Puis là, le royaume a été divisé en Juda et le reste des tribus qui a été appelé Israël. Donc, Israël ne désignait plus l'ensemble de tout le territoire, là, mais c'était la partie du nord. Israël du nord. Ça, on voit ça dans les chapitres 12 à 16. Ensuite, il y a comme un récit qui est intégré là-dedans, là, qui vient rentrer comme une parenthèse de fait sur deux grands prophètes, là, prophète Élie, puis celui qui lui a succédé, Élisée. À la fin de 1 roi, jusqu'au début de 2 rois, jusqu'au chapitre 9. Après ça, on les voit revenir aussi, là, à quelques occasions, mais ils s'entretiennent avec les rois. Et après ça, il y a la suite des rois jusqu'à la fin du royaume, jusqu'à chapitre 20, 25. Si on prend Salomon, c'était le fils de David, qui succède sur le trône, puis Dieu a fait de lui l'homme le plus sage qui a jamais existé. Quand on parle de la sagesse, c'est toute la somme des connaissances qu'il lui a données, le bon sens aussi. On voit des exemples de jugements que Salomon a fait, là, puis c'est impressionnant. Les gens venaient le consulter de l'extérieur pour bénéficier de sa grande sagesse. Même la reine de Saba est venue, puis elle a dit, on m'avait parlé de toi, puis je pensais que c'est exagéré, mais on m'avait même pas dit un dixième de ce que tu es, de toute ta richesse ou de ta prospérité. Là. C'est lui qui a construit le temple, en suivant la planification que David avait faite. David avait rassemblé un paquet de matériaux aussi, là. Mais c'est Dieu n'a pas permis que ce soit David qui construise le temple. Il a dit, ça va être ton fils. Parce que toi, tu étais ton règne, c'était un règne de sang, de guerre. Je veux que mon temple soit associé à un règne de paix. Et d'ailleurs, le règne de Salomon, ça a été un règne de paix. Il a eu la chance d'écrire des proverbes, Cantiques des Cantiques, Ecclésiaste. Il y a eu d'autres écrits aussi. On sait qu'il a écrit d'autres choses, mais ils sont pas rapportés dans la Bible. Donc, son règne, c'est un règne de paix, de prospérité. Mais malheureusement, même si c'était l'homme le plus sage qui existait, ça ne l'a pas empêché lui aussi de tomber dans le péché. Puis vers la fin de son règne, là, il est tombé dans l'idolâtrie. Il a été entraîné par des femmes étrangères qu'il a pris. Mais il a désobéi à Dieu en faisant ça. Il y avait un grand nombre de femmes qui adoraient d'autres dieux, puis ça l'a entraîné dans l'idolâtrie lui-même et le peuple avec lui. Puis Dieu lui a dit, à cause de ça, le royaume va être divisé, mais pas sous ton règne, on va attendre que ton fils arrive. Donc, dans l'époque des rois, Salomon vient tout de suite après David, puis ça marque un tournant dans l'histoire, là, c'est la division du royaume. C'est là que Cantique des Cantiques a été écrit, les Proverbes, l'Ecclésiaste. C'est au temps de Roboam, le fils de Salomon, qui est monté sur le trône, que le royaume a été divisé. Lui, il était comme le contraire de son père. Là. C'était un pas sage. Il n'a même pas respecté la sagesse du conseil qui était là. Il a écouté ses amis d'enfance. Là. Puis il a voulu montrer une main dure dans un gant dur. Puis finalement, Israël s'est rebellé contre lui. Et tout ce qu'il a pu garder, c'est le règne, l'autorité sur Juda et Benjamin, mais c'est appelé Juda. Donc, Roboam reste seulement roi de Juda. C'est Jéroboam qui devient le roi d'Israël, qui est la partie du nord. Donc, Dieu s'est servi de Jéroboam. Il l'a envoyé pour provoquer une rébellion et diviser.
C'était qui Jéroboam? C'était-tu un autre fils de Salomon ou c'était quelqu'un
d'apport complètement? Oui, c'est quelqu'un d'apport. Il n'était pas un descendant de la lignée de David. Là. Puis on pourrait croire que qu'il était meilleur que Jéroboam, mais non. Lui a entraîné le royaume d'Israël du Nord dans le péché, là, dans l'idolâtrie. Il a été pire. Les rois de Juda sont demeurés, en général, plus fidèles à l'Éternel, même s'ils n'étaient pas parfaits. Là. Puis le point de comparaison, ça reste le roi David. Lui, il a été fidèle comme David ou il n'a pas été fidèle comme David. Puis à cause que l'idolâtrie est rentrée dans le pays, il y a eu comme des autels qui avaient été construits, des hauts lieux pour les idoles, les dieux étrangers. Là. Ça a pris beaucoup de temps avant que les rois, finalement, purifient cela. Il y a eu Ézéchias, Josias, qui sont allés jusqu'à purifier totalement le culte, là, pour qu'ils adorent seulement l'Éternel. Les rois d'Israël, eux autres, dans le nord, ils s'enfoncent de plus en plus dans le mal. Lorsqu'un roi arrive, Dieu dit, il a fait pire que son père. C'est un roi qui a emmené le peuple encore dans une méchanceté encore pire. Puis quand son fils arrive sur le trône, il dit, lui, en fait, encore pire que son père. Donc, Israël s'enfonce de plus en plus. Pour ça, Dieu envoie plusieurs prophètes. Puis on va voir la semaine prochaine, on va étudier les prophètes on a les écrits dans l'Ancien Testament. Il y a plusieurs prophètes qui sont envoyés par Dieu. Puis on voit tout de suite une différence parce qu'il existait des prophètes dans le peuple. Là. C'était comme un métier d'être un prophète. Mais la plupart, c'était des faux prophètes. Là. Puis ceux que Dieu envoie, ils sont différents. Ils sont selon ce que Moïse avait dit. Comment vous allez faire pour reconnaître un vrai prophète? C'est que ce qu'il va annoncer va s'accomplir. Puis on dirait vraiment que Dieu, dans 1 et 2 rois, veut nous montrer les vrais prophètes. Là. Ce qu'ils disent, c'est accompli. Puis il y a Élie qui joue un rôle majeur. Même c'est étonnant qu'on n'ait pas un livre de la Bible qui s'appelle Élie. Mais ce qu'il a fait est relaté dans 1 roi et 2 rois. Là. Il accomplit de nombreux miracles. Même il fait une traversée à sec du Jourdain. Il ressuscite. Quel autre miracle qu'il fait? Oui, il fait descendre du feu. Puis d'ailleurs, il est enlevé à la fin de ses jours sur un chariot de feu. Donc lui, il ne connaît pas la mort. Il est enlevé comme Enoch. C'est Élisée qui lui succède. Puis lui aussi, il fait beaucoup de miracles. C'est assez impressionnant. Là. Même Élisée, le jour de sa mort, il est enterré. Puis 1 an plus tard, les gens sont en train d'enterrer un autre cadavre. Puis il y a des ennemis qui arrivent. Puis là, il lance le cadavre dans le trou. Puis le cadavre tombe sur les os d'Élisée, puis le gars, il reprend vie. 1 an plus tard, les os d'Élisée vont ressusciter un mort. C'était impressionnant. Mais c'était pour montrer vraiment la puissance de Dieu, là.
Pour montrer que c'est pas Élisée.
Oui, c'est vrai, c'est Dieu. Puis il démontre que l'Éternel seul est Dieu. Puis on voit aussi un ménage qui est fait avec les prophètes de Baal, là. C'est assez sanglant. Puis ils avertissent Israël, mais malheureusement, Israël se repent pas. Donc ça saute aux yeux, là, comment que Dieu est patient. Il leur donne de multiples occasions de se repentir. Oui. Puis pourtant, ils ne se repentent pas. Les faux prophètes sont punis. Eux, on voit que Dieu est un peu moins patient avec ceux qui osent parler en son nom. Eux autres, ils reçoivent une punition sévère. Mais la punition va venir au peuple aussi. Là. Puis finalement, Israël est détruit par l'Assyrie. Les survivants sont déportés en Assyrie. Ça, c'est l'Israël du Nord. Juda dure plus longtemps. Et malheureusement, ils finissent eux aussi à se corrompre, ils s'enfoncent dans le péché, ils sont finalement détruits par Nébuchadnezzar, le roi de Babylone. Et les survivants sont emmenés en captivité à Babylone. Donc, ces deux fins tragiques-là pouvaient laisser croire aux survivants que Dieu avait manqué à sa parole, que Dieu n'avait pas été fidèle, parce que Dieu avait promis un descendant à perpétuité sur le trône de David. Il avait promis aussi la paix dans le pays. Mais Dieu, ici, dans 1 et 2 rois, là, à travers l'auteur qui l'a écrit, nous montre que ce n'est pas de la faute de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a été infidèle, mais c'est à cause de la désobéissance du peuple. Et que Dieu, à multiples reprises, lui a donné l'occasion de se repentir. Ça se termine par la déportation de Judas, mais il y a aussi un petit paragraphe, ça se termine sur une note positive. Ça ouvre la porte à ce que Dieu redonne un jour le pouvoir à un descendant de David selon sa promesse. On voit qu'il est le successeur de Nebuchadnezzar, il est clément. Il redonne l'autorité au gouverneur du pays. Donc ça laisse sur une note d'espoir pour le peuple d'Israël à l'époque, là, qui avait survécu. Un jour, Dieu va rétablir son royaume. Et un jour, Dieu va remettre sur le trône un fils de David. Puis on voit l'accomplissement de la promesse, qui n'était pas exactement ce que les Juifs attendaient, mais en Jésus. Jésus, c'est le fils de David qui amène un règne selon le cœur de Dieu. Il y a un autre parallèle qui est fait aussi entre Salomon, qui bâtit le temple de l'Éternel. On voit un exemple aussi, il y a plusieurs expressions qui sont reprises dans les paroles de Jésus, comme quand Jésus dit « Je bâtirai mon Église ». Salomon était comme une préfiguration de Jésus, qui est plus sage que le plus sage des hommes. Il est la sagesse incarnée. Élie aussi était comme une figure de préfiguration. Il y a des prophètes qui reparlent d'Élie. Ils disent qu'un jour, il va y avoir un nouvel Élie qui va venir. Vous souvenez-vous de qui il s'agit? Oui, Jean-Baptiste, c'est ça. Donc, il est vu comme le précurseur du Messie, celui qui annonce la venue du Messie. Et quand le Élie va venir, le Messie va être pas loin. C'est Jean-Baptiste. Et on peut tourner dans Malachie. C'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Malachie 3. Il dit « Voici que j'enverrai mon messager. Il ouvrira un chemin devant moi et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'Alliance que vous désirez. Voici qu'il vient, dit l'Éternel des armées. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Quel est celui qui tiendra debout quand il paraîtra? Car il est comme le feu du fondeur, comme la potasse des blanchisseurs. Il siégera tel celui qui fond et purifie l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il épurera comme on épure l'or et l'argent. Et seront pour l'Éternel ceux qui amènent l'offrande avec justice. » Puis verset 23, il dit « Voici, moi-même je vous enverrai le prophète Élie avant le venu du jour de l'Éternel, jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs fils et le cœur des fils à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. » On peut voir un thème dans 1 et 2 rois, comme on l'a dit tantôt, c'est que l'homme est incapable d'obéir. Puis malgré que c'est le peuple à qui Dieu a adressé ses promesses, il s'est révélé, il a donné sa grâce, accordé le pardon, même le peuple d'Israël montre que l'homme est incapable d'obéir parfaitement à la loi de Dieu. Donc, de sombrer dans le péché, c'est comme inévitable à cause de la nature pécheresse. Donc, ça montre qu'une nouvelle alliance était nécessaire, où le salut est offert par grâce et est reçu par la foi. Comme le dit Galates 3, la loi est-elle contre les promesses de Dieu? Certes, non. S'il avait été donné une loi qui puisse procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a tout enfermé sous le péché afin que la promesse soit donnée par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Et à l'époque, elle était donnée à ceux qui croyaient au Messie qui allait venir. Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la surveillance de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été un précepteur pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. Et pour pouvoir reconnaître notre incapacité à suivre la loi parfaitement, reconnaître qu'on a besoin de la grâce de Dieu pour être sauvé. Si l'homme n'avait pas été pécheur, il aurait pu respecter la loi de l'Éternel à la perfection. Ce n'était pas quelque chose qui était surhumain qui était demandé. Ce qui amène la difficulté, c'est la corruption dans le cœur de l'homme. Le fait qu'on oublie facilement Dieu, qu'on est égoïste, orgueilleux. C'est ça qui rend le respect de la loi impossible. La loi en elle-même, elle n'est pas surhumaine. Il n'y a rien que Dieu demande qui est inaccessible.
Je pense que David, quand on regarde l'exemple de David, une des raisons pourquoi il est appelé le roi selon le cœur de Dieu, c'est que Dieu, oui, il y a la loi, mais Dieu regarde au cœur. Dans le cas de David a désobéi aux préceptes, aux règlements. Il est allé manger les pains de proposition, tout ça, tu sais. Et Dieu l'a pas. Théoriquement, il aurait dû mourir, et il n'est pas mort, là. Donc Dieu regarde au cœur. Même dans ce temps-là, on voit la grâce quand même.
Oui, c'était déjà révélé que la manière d'être sauvé, de pouvoir avoir une relation avec Dieu, c'est qu'on avait besoin de sa grâce, qu'il fallait demander pardon.
Jacques 2, 10, car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous.
On voit la sévérité de Dieu, puis on voit un exemple des deux fils d'Aaron. Ils ont emmené du feu étranger à l'autel. C'était défendu, ça. Donc, ils ont comme enfreint un commandement. Peut-être qu'ils n'avaient enfreint d'autres, on ne sait pas, là, mais il est montré qu'ils en ont enfreint un, puis ils sont morts. Ils sont devenus du côté des criminels aux yeux de Dieu. Criminels d'avoir enfreint sa loi. Ils deviennent coupables de toute la loi.
Même, il y a plusieurs exemples, juste des préceptes aussi, comme l'arche, quand ils devaient transporter l'arche, ils devaient le faire de telle manière. Occupez-vous-en pas de l'arche. Moi, je vais m'en occuper. C'est ça que l'Éternel disait. Puis quelqu'un qui a voulu, à un moment donné, qui pensait que l'arche allait tomber, il a mis ses mains là.
Il est mort, là.
Oh, c'est ça. Donc, Dieu est sévère dans l'application de la loi, mais Dieu est gracieux quand tu regardes au cœur, malgré l'application de la loi.
Un des premiers écrits qu'on a, le plus ancien texte qui semble avoir été écrit par Salomon, bien, qui semble être le plus ancien, c'est le Cantique des Cantiques. Son thème principal, c'est l'amour entre un homme et une femme. Donc, c'est un texte qui est considéré très charnel. Ça a été un sujet qui a été tabou pendant longtemps dans les églises, qui pensaient que la sexualité, c'était mal, c'était l'œuvre de la chair, du mal. Là, c'est la conséquence de la corruption dans le monde. Mais Cantique des Cantiques ne présente pas ça comme étant mauvais. Au contraire, présente ça comme une bonne chose. Ça célèbre la beauté physique. Ça évoque assez directement la relation sexuelle.
Même que dans les commentaires, si on prend les commentaires des années passées, dans les années 1950, ils n'abordent pas du tout le Cantique des Cantiques comme justement l'amour entre un homme et une femme, mais ils font le parallèle entre l'amour de Dieu et Israël.
Ça, c'est une solution facile pour s'en sauver, là. Aujourd'hui, on peut dire l'amour de l'Église et de Christ. Mais c'est vrai, dans le fond, que ça symbolise ça.
On peut faire des parallèles.
Là. Oui, il y a des parallèles, c'est ça. Mais
le livre comme tel, c'est pas ça. On peut faire le parallèle parce que Cantique des Cantiques l'a fait, mais c'est pas le thème principal.
C'est ça, exactement. Mais c'est un texte qui est difficile à interpréter à cause de sa nature charnelle. Donc certains, c'est ça, la position classique, qui ont vu que c'était comme une allégorie. D'autres, OK, il y en a qui ont vu que c'est le récit du bien-aimé et que le bien-aimé, c'est Salomon. C'est vrai qu'il est appelé Salomon à quelques reprises, mais il y a des choses qui clochent un peu. Si c'est vraiment Salomon, parce que le texte présente l'amour entre un homme et une femme, mais exclusif, là. Le mariage entre un homme et une femme. C'est évident que c'est Salomon qui l'a écrit, mais je pense pas qu'il est en train de... C'est pas une autobiographie. Mais dans le texte, ça semble plutôt montrer que le bien-aimé et la bien-aimée, c'est un berger et une bergère. C'est des gens qui sont pauvres. Plus tard, ils sont décrits comme étant immensément riches, là. Mais on va y revenir. Il y en a d'autres qui pensent que c'est un récit à trois personnes. Qu'il y aurait le bien-aimé, la bien-aimée, puis Salomon, c'est comme celui qui vient intervenir pour séduire la fille, comme pour la voler au berger, comme le roi qui veut épouser la charmante bergère. Puis, ça réussit pas, puis la bergère épouse le ramoneur, de rien du tout. Mais ça non plus, ça semble... clocher, là. C'est pas ça qui est le thème principal. La meilleure interprétation, ça semble être qu'il s'agit d'un chant d'amour. Puis d'ailleurs, c'était typique. On a retrouvé dans les découvertes archéologiques plusieurs chants à l'époque qui étaient des chants d'amour, là. Mais celui-là, c'est le seul qui est pur qu'on voit qui est inspiré de Dieu, là. C'est vraiment Dieu qui nous parle. Parce que les autres sont déformés par le péché. Celui-là, il montre clairement la volonté de Dieu. Puis même lorsque le bien-aimé est décrit comme un roi, comme Salomon, mais à l'époque, ça a l'air que pendant bien des siècles, lorsqu'il y avait un mariage, l'époux était appelé le roi. C'était comme le roi de la journée. C'était un roi pour sa bien-aimée. Puis l'épouse était appelée la reine. Donc l'époux, il était le roi aux yeux de son épouse. C'est une manière poétique, là, de dire à quel point l'autre est précieux, à quel point il a de la valeur. Puis l'épouse est une reine aux yeux de l'époux. Puis l'autre aspect particulier, c'est que la relation, elle est exclusive. C'est pas l'amour libre, là. Dans ce sens-là, le bien-aimé est supérieur à Salomon dans sa fidélité. C'est la situation comme idéale qui est présentée. C'est peut-être possible que Salomon, en écrivant ça, dans le fond, il fait son autocritique. Mais ça n'empêche pas, comme on disait, que c'est aussi une typologie, un type là, de la relation entre Dieu et son peuple. Donc, dans l'Ancien Testament, c'est Dieu et l'Éternel et Israël. Dans le Nouveau Testament, c'est Christ avec son Église. Et d'ailleurs, les autres textes dans la Bible utilisent cette allégorie-là. L'Église est présentée comme l'épouse de Christ. Puis le peuple d'Israël, lorsqu'il va à d'autres dieux, est présenté comme une femme adultère. ou prostituée. Ce que Daniel dit, c'est dans, on le voit bien dans Ézéchiel, comment Dieu a choisi sa femme, il l'a revêtue, il l'a bien parée. Il y a des enseignements dans le Cantique des Cantiques. Premièrement, l'union physique entre un homme et une femme, c'est une belle chose, c'est une bonne chose. C'est voulu par Dieu. C'est un don de Dieu. Mais ce n'est une bonne chose que dans une relation unique et exclusive. Parce que c'est montré que c'est beau parce que c'est exclusif. La fille dit de son fiancé qu'il est son bien-aimé, qui lui appartient. Puis elle lui appartient. Puis c'est exclusif aussi dans le sens qu'il faut, il faut attendre le jour de l'union. Il dit, « Je vous en conjure, fille de Jérusalem, n'éveillez pas, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le souhaite. » Ça, c'est comme un refrain qui revient à plusieurs reprises. Un autre aspect aussi, c'est que l'amour est présenté comme volontaire. Les deux désirent être ensemble. Ça ne peut pas être acheté, ça ne peut pas être forcé. Ce n'est pas selon la volonté de Dieu. Puis un autre aspect qui ressort aussi, c'est que l'harmonie du couple, c'est fragile. Des fois, on voit dans un passage qu'il se cherche, où est-ce qu'il est rendu mon bien-aimé. C'est comme une image pour montrer qu'il faut, il faut se retrouver. Il faut entretenir l'harmonie dans le couple. Le même auteur, c'est lui qui a écrit les Proverbes. Donc, l'homme le plus sage qui a existé a écrit des paroles de sagesse. Il faut comprendre, les paroles de sagesse, ce sont pas des commandements. Certains pensent que les Proverbes, c'est comme une série de lois qu'on doit suivre. Et c'est pas voulu comme étant des commandements, des articles de loi, mais plutôt c'est des manières d'appliquer la loi. Donc, il n'y a rien de nouveau qui est dit dans les Proverbes. Là, c'est la volonté du Seigneur qui a été révélée dans la loi. Puis la sagesse de Salomon nous montre comment l'appliquer dans la vie de tous les jours, dans la vie quotidienne. Puis c'est des leçons basées sur l'expérience, sur ce qu'il a vu, des leçons de la vie. Puis c'est des principes généraux, comme des règles générales. C'est Salomon qui est l'auteur principal. Puis sa thèse, vous vous souvenez, c'est quoi le début de la connaissance ou le début de la sagesse? C'est ça. Ça, il dit dès le départ, là, dans le chapitre 1, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la connaissance ou de la sagesse. Puis c'est ce qu'il développe tout le long. Donc, c'est pas une sagesse qui est humaine, c'est vraiment une sagesse qui est donnée par Dieu, qui est divine. Puis là, il y a une foule d'enseignements. Premièrement, il va démontrer à plusieurs reprises que la sagesse qui est purement humaine, c'est déficient. Ça va nous emmener à commettre des erreurs, ça va nous emmener à faire des mauvais choix dans la vie. Il va arriver de mauvaises conséquences à nos mauvais choix lorsqu'on se base uniquement sur la sagesse humaine. Il y a seulement lorsqu'on se confie en l'Éternel que ça peut procurer la vraie sagesse. Donc, c'est une sagesse qui vient de Dieu. Puis cette sagesse-là va procurer le bonheur. Même il est montré que ça va procurer une longue vie, la prospérité, la sécurité. C'est quoi votre réaction face à cela? Parce qu'il y a plusieurs proverbes là, qui disent, si tu fais ça, tu vas être heureux, tu vas être prospère, tu vas être en santé, tu vas vivre longtemps, tu vas être en sécurité, tu manqueras de rien, tu vas être en paix. Mais s'il arrive un malheur dans la vie de quelqu'un, là, ça veut-tu dire qu'il manque de sagesse? Ouais. OK, il y a plusieurs mains là. Daniel? Oui?
C'est qu'il ne perdra pas sa confiance en Dieu. C'est ça le vrai.
Comme Job.
C'est vrai.
C'est comme Job.
Oui, c'est vrai. C'est très proche de Job, la question qui est soulevée.
Où est-ce qu'on attend le bonheur, la prospérité et la sécurité? Si on l'attend sur terre, c'est sûr qu'il va y arriver des temps où il y a moins de prospérité et on se sent moins sécure. Mais la source du bonheur, la vraie sagesse, c'est notre confiance en Dieu et la place qui nous est réservée. Pour ça. David, David, bon, là on parle de Salomon, mais David le dit, il dit, je veux séjourner toute ma vie dans le temple de l'Éternel, tu sais, jusqu'à la fin de mes jours. Donc c'est long, donc il a une place plus loin.
C'est ça. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les proverbes donnent des principes généraux. C'est des conséquences normales qui vont arriver. Quelqu'un qui vit dans sa vie, il commet des choses illégales contre la loi. Là. Un jour ou l'autre, là, comme le dit le proverbe, le crime ne paie pas. Ça, c'est pas un proverbe dans la Bible, là, mais l'idée est là. Il va se retrouver en prison, le gars. Ça va aller mal. Là. Il y a des mauvais choix qu'il prend. Le gars qui commet l'adultère, forcément, son couple, éventuellement, ça ira pas bien. Là. Donc, il y a des mauvaises conséquences qui vont arriver à des mauvais choix qu'il fait s'il se conduit pas de manière sage. Mais quelqu'un qui se conduit de manière sage, normalement, ça va mieux aller dans sa vie. Mais ce n'est pas des règles absolues. Ce n'est pas une promesse que Dieu fait. Par exemple, lorsqu'il dit enseigne à tes enfants dès leur jeune âge là, les principes de Dieu, puis plus tard, il ne s'en détournera pas. C'est une règle générale, ça. Puis c'est vrai que les enfants qui vont avoir la foi en Dieu et qui vont croire, qui vont marcher droit, il y a une plus grande proportion de ces enfants-là qui viennent de familles chrétiennes. Mais ce n'est pas une garantie, ce n'est pas une promesse, les proverbes, c'est des principes généraux. On parlait de Job tantôt, il ne faut pas, lorsqu'on lit les proverbes, se mettre à réfléchir comme les amis de Job là, qui font que c'est des automatismes. Là. Si tu fais ça, il t'arrive ça. Donc, si tu n'as pas la conséquence normale, c'est parce que tu n'étais pas sage. C'est pas comme ça. Le malheur peut frapper, autant le juste que l'injuste. Mais le malheur ne sera pas une conséquence de ses mauvaises actions, conséquence de ses mauvais choix, de son manque de sagesse. Le malheur, il y a autant de malheur qui peut frapper le juste, mais l'Éternel en délivre. Éventuellement, il va nous délivrer à notre mort. Mais même sur la terre, on expérimente la délivrance de Dieu. La famille Alvarez l'a expérimenté, la délivrance de Dieu.
C'est comme l'Éternel quand il dit « J'ai trouvé en David un homme selon mon cœur ». En réalité, là, moi je pense que la raison principale, c'est parce que David revenait toujours à l'Éternel. Je pense que c'est ça. Là. Et quand, de ce qu'on parle, c'est pas le même principe. On peut revenir n'importe quoi, mais c'est qu'on revient toujours. La leçon est là.
C'est ça. Puis David, son règne, il a eu un règne heureux. Mais il y a eu des épreuves aussi. Là. Puis même dans des périodes où est-ce que c'est pas parce qu'il était dans le péché, mais avec son fils Absalom, là, qui a couru après, il est obligé même de le sauver de la capitale. Là. C'était pas de la faute de David ce qui arrivait là. Là. Et il y a des malheurs qui l'ont frappé, mais dans ces périodes-là, il retournait à Dieu constamment. Puis même lorsque le malheur était une conséquence de son péché, il retournait à Dieu.
Mais à chaque fois que c'est arrivé ces choses-là, ça ne l'a pas approché de Dieu maintenant?
Oui, c'est vrai. Puis on le voit dans les psaumes. Parce que dans les psaumes, souvent dans l'introduction, c'est dit lorsque David se sauvait de Saül, lorsqu'il était dans la caverne, que Saül voulait le tuer. C'est en se souvenant de ces événements-là que David a écrit. Son fils aussi voulait le tuer, ouais, c'est affreux. Oui, Joe?
Mais dans le péché aussi, il dit que tant que je n'ai pas reconnu mon péché, tant que je n'ai pas confessé mon péché, mes os se consumaient en dedans de moi. Donc, le temps, parce que c'est après un certain temps qu'il y a une repentance de son péché, on voit qu'il a souffert de cela.
C'est vrai.
Nathan, t'allais y brosser la cage.
Ce que tu dis, c'est des principes. Moi, je vois un peu le livre de Proverbe, comme le grand-père de la Bible. Avoir le sage du village là, pour des conseils qui est de bons conseils. Là. C'est pas une garantie de succès. C'est des bons conseils.
Ça, tu n'es pas obligé de les suivre, mais c'est une bonne idée.
Ouais. La sagesse est présentée comme une personne dans les proverbes. Ça, c'est intéressant aussi. La sagesse, elle parle, elle fait des choses. Elle est comme présentée comme un individu. Puis même, il dit que le monde a été créé par la sagesse. Donc, on voit un parallèle, ça saute aux yeux que la sagesse, c'est Jésus. Même le Nouveau Testament révèle que la sagesse, c'est Jésus. Jésus, c'est la manifestation de la sagesse de Dieu. Dans Colossiens 2, on l'a lu tantôt, mais pour connaître le mystère de Dieu, Christ, en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Ou dans 1 Corinthiens, Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Jésus lui-même, en tant qu'homme, est présenté comme sage. On le voit dans Luc. Le petit enfant grandissait, il se fortifiait, il était rempli de sagesse. La grâce de Dieu était sur lui. Donc, évidemment que Jésus faisait de bons choix. Là. Non, il n'a jamais péché. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu, devant les hommes. Il se rendit dans sa patrie, il se mit à enseigner dans leur synagogue, de telle sorte qu'ils étaient étonnés et disaient, « D'où lui vient cette sagesse et ces miracles? » Donc, on peut dire, si on reprend les paroles de Salomon qui dit, « La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. » Selon le Nouveau Testament, on peut dire que la foi en Jésus, notre compréhension de l'Évangile qui s'approfondit de plus en plus, c'est le commencement de la sagesse. Connaître Jésus, c'est acquérir la sagesse. On n'a pas le temps de voir Ecclésiaste, on va voir ça la semaine prochaine. Mais ça, c'est l'Ecclésiaste, c'est Salomon qui revient avec la question qu'on a abordée tantôt. Pourquoi c'est difficile d'avoir du bonheur sur la terre? Là. Et pourquoi toutes les choses sont futiles? On peut trouver quelque chose qui nous rend heureux, puis le lendemain, ça ne vaut plus rien, ou ça passe. Puis même en bout de ligne, la vie passe. Comment ça fait qu'on meurt? Juste de penser que tout ce qu'on accomplit un jour ou l'autre, là, il n'y restera rien parce qu'on va disparaître de la terre. Là. Juste penser à ça, Salomon, parce que c'était l'homme le plus sage, il s'est rendu à l'évidence que tout est futile, tout est dérisoire dans la vie. Mais ça ne veut pas dire que ça ne vaut pas la peine de vivre. Ça, on va revoir ça la semaine prochaine. OK, on va prier pour conclure.